Une petite réflexion ce matin sur la prière de louange comme expression de la foi, puisque donc tout au long de cette année de la foi, nous essayons d'explorer différentes facettes. Et on peut se dire que développer et vivifier notre foi, ça dépend aussi précisément de cet aspect de la prière de louange. C'est une prière qui confesse la victoire de Jésus sur toute puissance de mal et de mort. Donc c'est vraiment une expression forte de la foi. Et plus on va essayer de développer, renouveler la louange dans notre prière personnelle ou communautaire, plus en même temps on va donc poser des actes de foi qui vont nous attacher au Seigneur. Alors évidemment, il faut être un tout petit peu, nuancé. Il y a eu peut-être 30 ans, 40 ans, un livre qui est paru qui s'appelait « Puissance de la louange » d'un Américain, Merlin Carothers. Et les Américains évangéliques, notamment, ont cette tendance à faire des recettes avec des expériences spirituelles qui les ont marquées, donc dont ils ont pensé qu'elles marchaient dans leur vie, vraiment. Ça avait renouvelé leur vie, et ils en font une recette. Et donc, Merlin Carothers disait, prier en tout temps la louange, louer le Seigneur en toutes circonstances, y compris quand ça va mal, très mal, et très 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 mal. Alors, par rapport à ça, Georgette Blaquière, qui est aussi une personne, elle vient de mourir il y a quelques mois ou quelques semaines, plus de 90 ans, qui était aussi dans ce courant du renouveau charismatique, dit ceci: il n'est certes pas question de louer Dieu pour le malheur qui nous frappe ou le mal qui nous enserre de toutes parts, mais de reconnaître dans une louange qu'il faut parfois s'arracher du cœur, qu'il est notre Dieu, plus fort que le mal. Voilà, ne pas se tromper de cible, ne pas louer Dieu pour le malheur qui nous frappe, mais reconnaître dans la louange qu'il est notre Dieu plus fort que le mal. Ce n'est pas une prière facile. Pour Jésus lui-même, le « C'est toi ma louange » dans la grande assemblée du psaume 22 commence au début de ce psaume par le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» S'il fallait donner une définition de la louange, on pourrait l'emprunter à l'auteur de la lettre aux Hébreux qui recommande ceci: par Jésus, offrons à Dieu en tout temps un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et ce verset souligne bien que la louange, c'est une confession de foi, un acte de foi en Jésus exprimé à haute voix. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous confessons la présence de Jésus, son amour, sa victoire sur le mal, sa résurrection. Nous confessons, et nous le confessons dans une prière de louange. Quelquefois, quand les personnes sont dans leur vie chrétienne personnelle, souvent enclines à, être un peu dépressives, dirons-nous, un peu négatives, je leur dis, lisez, prenez des psaumes de louange, et si vous en avez la possibilité dans votre prière personnelle, chez vous, lisez-les à haute voix. Lisez-les à haute voix, ces psaumes de louange. Et souvent, j'ai eu ce témoignage de personnes qui me disaient, ah oui, ça m'a vraiment aidé à sortir de mon cœur, à travers cette prière biblique de louange, un acte de louange envers le Seigneur, et donc de dépasser ce qui, psychologiquement ou spirituellement, pouvait me plomber quelque part. Voilà. Un acte, sacrifice de louange, vous voyez le mot sacrifice qui est employé dans la définition de la lettre aux Hébreux, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dire tout haut les louanges du Seigneur. Alors cette louange peut se vivre au quotidien, bien sûr, le matin, tout au long du jour et le soir. Le matin, nous avons la possibilité d'entrer dans la louange, il faudrait en prendre l'habitude dès notre lever, de commencer en quelques mots à bénir Dieu pour ce qu'il est. Il est Père, il est miséricorde, il est bonté, il est tendresse. On peut le bénir aussi pour ce qu'il a fait de nous, par les sacrements que nous avons reçus, par le baptême, par la confirmation, par le mariage pour certains, l'ordre pour d'autres. Car c'est la réalité la plus profonde de notre personne et c'est le socle spirituel sur lequel nous pouvons nous appuyer. On peut le bénir pour tout ce qu'il a préparé pour le jour qui vient. Tous les événements qui vont se produire et qui seront guidés par sa main, qu'il nous donne de les voir vraiment dans une perspective de foi et de lumière. C'est vraiment une prière de foi. Saint Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, dit « Nous sommes son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. » Donc béni sois-tu Seigneur pour les œuvres que tu as préparées pour aujourd'hui, pour moi, pour que je les pratique et qui vont se trouver sur ma route aujourd'hui. Tout au long du jour aussi, notre cœur peut rester dans la louange. Dans le livre du Siracide, que vos louanges exaltent le Seigneur, ne vous lassez pas, car vous n'en finirez pas. Il faut continuer à louer le Seigneur et cette louange exprime l'acceptation du présent, l'acceptation de ce qui advient. Et donc, dans ce sens, elle nous donne de vivre dans la paix. Elle proclame la Seigneurie de Jésus dans les moments difficiles de tentation et nous donne ainsi de rester libres. Elle nous donne efficacement de sortir de nous-mêmes pour être donnés en tout et à tous. Et vous avez ce fameux verset de Paul dans la première aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse, en toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce. » En toutes circonstances, soyez dans l'action de grâce, dans la louange. C'est la volonté de Dieu pour vous, dans le Christ Jésus. Donc Paul ici assimile la prière continuelle à la prière de louange. Sans cesse, en toutes circonstances, dans l'action de grâce. Et il n'hésite pas à dire, c'est la volonté de Dieu pour nous, dans le Christ. Et puis encore le soir, on peut exprimer notre action de grâce pour l'amour reçu et vécu tout au long de la journée. Et au fond, par notre louange de plus en plus développée, nous nous unissons à la louange céleste qui s'élève constamment devant le trône de Dieu, puisque dans le livre de l'Apocalypse, on nous montre la liturgie céleste et on nous dit que toutes les créatures au ciel, qu'il s'agisse des quatre vivants, des 24 anciens ou des myriades d'anges, sont dans la louange à celui qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Amen. La liturgie céleste est une grande liturgie de louange. Et les psaumes, donc, lus à haute voix, ou priés en commun, sont la prière biblique de louange par excellence. Il ne faut pas compartimenter notre prière et faire dire d'un côté on va faire la louange, et puis de l'autre côté on va faire de l'intercession et de la demande. C'est pas la même chose. Eh bien, c'est pas sûr du tout, parce qu'on voit que saint Paul, très clairement, nous demande de mêler la louange à la prière de demande. Et il emploie un mot particulier pour dire la prière pénétrée d'action de grâce. On voit par exemple que Jésus en donne l'exemple lorsqu'il prie pour le retour de Lazare à la vie. Il dit « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours. » Et il s'écrie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Évidemment, Jésus est au plus près de l'identification avec la volonté du Père. Mais voilà, il rend grâce d'avoir été écouté avant même d'avoir vu le résultat de sa prière. Il rend grâce. Vous avez l'épisode des 10 lépreux que vous connaissez dans l'Évangile selon saint Luc, où Jésus guérit ces hommes à leur demande, mais un seul revient pour remercier Jésus, et il obtient dans cette démarche son salut. Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, pas seulement la demande, mais aussi le remerciement, la louange. Donc, cette prière de demande mêlée de louange, saint Paul la nomme prière pénétrée d'action de grâce. Il la conseille et la demande dans la plupart de ses lettres. Réjouissez-vous sans cesse, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'action de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Vous voyez bien qu'il s'agit ici d'une prière de demande, puisqu'il s'agit de présenter nos requêtes, et il appelle ça l'oraison, la prière pénétrée d'action de grâce. Alors la paix de Dieu prendra sa part, prendra sa garde, sous sa garde, vos cœurs et vos pensées. Il est clair que pour Paul, il s'agit de ne pas sortir de la paix, de demeurer dans la paix, n'entretenez aucun souci, réjouissez-vous sans cesse. Ou encore dans la lettre aux Colossiens, soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilant dans l'action de grâce, dans la louange. Priez pour nous en particulier afin que Dieu ouvre un champ libre à notre prédication. Donc ne pas forcément saucissonner, compartimenter notre prière en disant « Ah oui, la louange, c'est quand même très spécial. » Non, il nous est demandé de la vivre en toutes circonstances, aussi bien dans l'intercession, dans la demande, que dans la louange pure. Si l'on regarde le Magnificat, la louange de Marie, on voit bien que ce Magnificat, cette prière, c'est la louange de l'Esprit-Saint qui s'exprime à travers le cœur immaculé de Marie. Et au fond, quand on étudie un tout petit peu cette prière, on voit qu'il y a trois mouvements. Dans un premier temps du Magnificat, elle loue Dieu en reconnaissant sa grandeur. Le Magnificat, en fait, commence dans le grec par ce mot « Grand est le Seigneur ». Grand est le Seigneur. Toute ma vie le proclame, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Et cette première partie du Magnificat se termine par « Il a fait pour moi de grandes choses ». Elle est encadrée par le mot « grand ». Et la louange, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, donc, et en tressaillir de joie. Et puis au cœur du Magnificat, vous avez cette affirmation forte « Saint est son nom ».« Saint est son nom ». Donc louer Dieu, c'est, et le cœur de la louange, c'est acclamer la sainteté de l'amour de Dieu. Reconnaître dans la foi et malgré les apparences que Dieu sanctifie son nom aujourd'hui, même si c'est caché et si c'est difficile à discerner. Dieu sanctifie son nom, il est saint. Et la dernière partie du Magnificat est encadrée par le mot « miséricorde ». Sa miséricorde s'étend de génération en génération, etc. Et puis à la fin, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères. Donc louer Dieu, c'est encore reconnaître la miséricorde du Père. Voilà, une lecture du Magnificat qui nous permet donc de nous dire que pour louer Dieu, il s'agit de reconnaître sa grandeur, il s'agit de proclamer sa sainteté, il s'agit d'affirmer sa miséricorde. Si l'on regarde le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, on voit que l'effet de la survenue de l'Esprit-Saint dans le cœur des apôtres, c'est de leur faire sortir, si j'ose dire, une prière assez particulière qui s'appelle la prière en langue et qui consiste effectivement à perdre l'aspect intelligible de la prière pour balbutier dans des mots inconnus, dans une sorte de gémissement, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, une prière qui s'adresse à Dieu, prière de louange. Alors, ça n'a rien d'extatique, et ça n'a rien de miraculeux non plus d'ailleurs, c'est à la portée de tout baptisé, mais la plupart n'ont jamais été initiés à ce type de prière. mais c'est tout à fait répertorié dans Marc chapitre 16, qui dit que on reconnaîtra les disciples à ce qu'ils pourront prier en langue nouvelle, et aussi dans l'expérience des apôtres dans les Actes, et à travers aussi tout le réveil dans l'esprit qui a lieu à travers toutes les églises actuellement. Et enfin, on peut se dire que l'Eucharistie, la prière de l'Eucharistie que nous venons de vivre, c'est par excellence la louange, et la louange dans l'Esprit Saint. La préface commence par une invitation à louer Dieu, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce. La prière eucharistique elle-même, après le Sanctus, affirme « Tu es vraiment saint », affirme la sainteté de Dieu. L'anamnèse qui suit l'énumération des motifs de la louange et les diverses prières eucharistiques, surtout la quatrième qui est plus développée, raconte l'histoire du salut, donc les hauts faits de Dieu, loue Dieu pour sa grandeur à travers ses manifestations dans l'histoire du peuple de Dieu, et inclut d'ailleurs la venue du Fils dans la chair et les principaux moments de sa vie, et ça entraîne bien sûr le récit de l'institution eucharistique. Et la doxologie qui termine la prière eucharistique exprime bien cette offrande du Fils, qui est la seule véritable louange, qui rend tout honneur et toute gloire au Père, par lui, avec lui et en lui. C'est la seule vraie louange, au fond. Ce sera intéressant aussi de définir la louange selon cet axe. Ça consiste à offrir le Fils au Père et à entrer dans la louange du Fils pour s'adresser au Père. D'où d'ailleurs, entre parenthèses, la façon dont récurrente dont un certain nombre de révélations privées insistent sur, par exemple, Sœur Faustine Kowalska, où Jésus lui avait enseigné une prière qui consiste à offrir le corps, le sang, l'âme, la divinité de Jésus dans l'Eucharistie. L'ange aux enfants de Fatima aussi en 1916 leur a enseigné une prière comme celle-là, à offrir au Père Jésus dans, j'allais dire, l'ensemble de sa réalité vivante, à savoir humanité, divinité, corps et sang eucharistique. Terminons par un aspect aussi qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est que la louange est forte pour libérer la victoire de Dieu dans nos vies. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, vous irez regarder ce chapitre assez long, qui est très descriptif. Le roi Josaphat, menacé par une horde immense de combattants, commence non pas par fourbir les armes, mais par proclamer un temps de jeûne et de prière pour tout le peuple. Il est écrit: tous les Judéens se tenaient debout en présence de Yahvé. Et alors, par la bouche d'un prophète, leur est adressé un message: ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Et le lendemain, Josaphat place au premier rang des combattants, devant les guerriers, les chantres de Yahvé, qui louent Dieu vêtus d'ornements sacrés et qui entonnent des louanges. Louez Yahvé, disait-il, car éternel est son amour. Et on lit dans ce chapitre 20, au moment où ils entonnaient l'exaltation et la louange, Yahvé tendit une embuscade contre les Ammonites qui se virent battus. Et donc c'est ainsi qu'ils remportent la victoire, sans même combattre, parce que les assaillants s'enfuient. Et c'est vrai que la louange, quelquefois, dans des cas de forte tentation, fait déguerpir l'ennemi et la tentation. Plus nous nous acharnons dans la louange, plus nous devenons forts, et la victoire de Dieu se manifeste. Donc, dans des circonstances difficiles, la prière, la supplication deviennent le lieu d'une écoute de Dieu qui vient nous fortifier, et la louange prolongée, c'est un cri de confiance qui touche le cœur de Dieu et laisse le champ libre à son action. Et vous avez un peu la même réalité dans un passage des Actes des Apôtres où Paul et Silas ont été emprisonnés. Ils sont incarcérés au sens propre du terme, enfermés dans des fers au niveau de leurs membres, et loin de se laisser accabler, ils continuent en pleine nuit à chanter les louanges de Dieu. Tous les prisonniers les entendent, et au cours de la nuit, il y a une sorte de tremblement de terre imprévu qui fait sauter les entraves et qui va les libérer. Alors bien sûr, quelque part, cet épisode est symbolique de ce que la louange, lorsqu'elle habite notre cœur, manifeste une confiance inébranlable en Dieu et fait sauter les entraves qui peuvent nous enfermer, de tous nos enfermements psychologiques, psychiques et spirituels. Il faut donc demander la grâce de pouvoir louer Dieu. Il y a là un chemin de foi à explorer toujours plus avant et à reprendre sa